du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro 697 du Coq à l'âne en direct de Briançon. On est où exactement ?
À Briançon.
À Briançon.
À la taverne ?
À la taverne, restaurant de caractère.
Oui, très important, il faut le dire à chaque fois. Autour de la table, vous l'avez entendu, Philippe Stockley est là. Salut Philippe.
Salut.
Rémi Chouissa est là aussi.
Salut.
Et puis notre invité aujourd'hui, c'est François Badjili, directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. Salut François.
Bonjour à tous.
Une grande gueule, François, hein, qui parfois réagit avec virulence lorsqu'il écoute le coq à l'âne.
C'est vrai.
Notamment lorsqu'on aborde les sujets des stations, sujets épineux en période de Covid. Il nous en parlera certainement tout à l'heure. Et on pourra ferrailler ensemble dans la joie et la bonne humeur. Mais pour le moment, comme le veut la tradition, la parole est donc au procureur. Philippe Stockley.
Bon, eh bien, salut François, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu.
C'est vrai.
À ce sujet, je vais vous relater un épisode de la vie moderne. Quand je dis moderne, c'est qu'il y a 20 ans, je n'aurais pas pu raconter ce que je vais raconter là. Disons qu'avant, dans les années 10, ça j'aime bien.
C'est-à-dire 2010, tu veux
oui,
dire.
Ouais,
d'accord.
Okay. On te voyait souvent avec François, moi élu communal, toi directeur de l'Office de tourisme de Sercheux, moi avec un siège réputé éjectable par la mystérieuse voix des urnes et des apparences, toi sur un siège quand même réputé aussi éjectable, parce qu'en liaison directe justement avec la très subjective opinion des élus. Mais si on compare les carrières, tu es franchement au-dessus de moi. Il y a pas pour... On en reparlera. Tout ça pour dire que le poste de directeur d'office de tourisme reste un poste que je dirais sensible au vent, voire aux tempêtes. Et que le poste d'élu, tout en étant sensible également aux éléments, ne restera à mon sens qu'une légitimité très passagère, voire illusoire, qui n'existe en tout et pour tout que grâce aux apparences et aux envies du moment d'une majorité fluctuante. Bon, j'avais un compte à régler quasi psychanalytique sur ma courte carrière de décideur de vent et de trop peu de tempêtes. Voilà, c'est fait. Revenons à ce coq à l'âne à Briançon avec notre invité, François Badjili, ex-directeur de l'Office de tourisme de Serre-Chevalier. La station locale dont l'emblème trône là-bas, dans le Tsundus, dans le rond-point, un Briançon, un bel aigle en métal. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste en dessous de nous. Et aujourd'hui, directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. Et j'imagine, même si je m'en doute, car nous avons quasiment le même âge, François, bientôt en retraite.
Alors, je ne sais pas tout à fait ce que veut dire la retraite. Si c'est la fin de l'activité professionnelle que j'ai actuellement, oui, effectivement, je pourrais déjà prendre ma retraite. Puisque, comme toi, Philippe, je suis de 59 et donc j'ai passé mes 62 ans. Et
58.
Toi, tu as encore un an de plus que moi, je te dois le respect. Donc,
et que
j'ai tous mes trimestres. Mais comme je le dis de temps en temps, je ne me sens pas encore tout à fait prêt à m'acheter des charentaises et aller à la pêche tous les jours ou à la pétanque. Donc, je me suis engagé auprès de mon maire encore à faire 2 ans avec lui, donc l'année 2022-2023.
Bon, j'allais dire et boum, je vais bien le cadrer avec ça. Vous avez vu que le médecin le plus sympa de la télé, Michel Simès, s'est vexé sur un plateau quand on lui a parlé de son statut de docteur en retraite. Mmh. Il a failli se lever et quitter le plateau de je sais pas quoi, c'est 5, c'est à vous, machin. François, je te connais un peu et je sais que tu ne seras pas vexé de ce genre d'allusion et que tu ne quitteras pas ce bel établissement briançonnais.
Non, non, c'est effectivement un bel endroit et je suis bien entouré, donc c'est un plaisir que je vais passer ce moment-là avec vous.
Ça va peut-être pas durer. Donc, lors de nos carrières croisées, il faut reconnaître qu'il y a eu de légères tensions entre nous deux. Tensions que, par grandeur d'âme et en toute humilité, je mettrai sur le compte de mes mauvaises humeurs passagères.
C'est
et sur mon étroitesse d'esprit qui ne demandait qu'à s'élargir. Puis, j'ai stoppé mon activité d'élu, 10 ans avant les échéances classiques. Et toi, tu as changé de station pour rejoindre la belle station d'Alpe d'Huez. Belle carrière. Et je n'ai pas dit belle fin de carrière. Et là, à ce moment-là, quand on se perd de vue, et quand on n'est plus très motivé pour rencontrer l'autre, ou parce que les temps ont changé, comme dirait Bob. Parce que les temps ont changé, comme dirait Bob.
Ah, je ne l'ai pas.
Bob Dylan, Time Are Changing.
Oh,
ils sont lourds ce matin.
Oui, mais
tu
aurais dû dire Time Are Changing. Moi, je cherchais un autre Bob.
Bob l'étang.
Ouais,
moi, je crois que c'est Bob l'éponge, mais bon.
Parce que donc, je disais, les temps ont changé, comme dirait Bob. On fait un geste incroyable, un acte d'un courage inqualifiable. On supprime le contact sur le portable.
Ah, oui.
Rendez-vous compte. Ce qui fait que 3 ans plus tard, alors que je me dis, tiens, j'invite très bien François Badjili pour reprendre la saison 2021-2022 du coq à l'âne. François, c'est un bon client, autant par la qualité que par la quantité du discours, eu égard à sa longue carrière, bientôt terminée peut-être. Et finalement, je serais bien content de le retrouver derrière le micro rouge d'Alpe, hein, un de ces vendredis à la taverne à Briançon. Alors je cherche le numéro sur mon portable et mince, disparu. Ou plutôt pour faire jeune, oups, disparu. Bon, là maintenant, je pourrais mentir en vous expliquant que j'ai eu un gros bug sur mon portable.
Ouais.
Mais j'ai préféré vous dire que... j'ai préféré que ça a dû être un moment de remise en question, sûrement lors de mon difficile départ en retraite. Non, c'est pas vrai. Il y a un an et demi. Qui a effectivement été l'occasion de supprimer beaucoup de numéros sur mon téléphone. En gros, dans ces moments-là, on se dit qu'on va passer à autre chose. Et je n'appellerai, je me dis, je ne vais pas appeler quasiment toutes ces connaissances qui étaient liées à une activité professionnelle ou publique. C'est comme ça la vie, comme dirait ma petite fille de 4 ans. Donc, plus de numéro de François. Là, je me dis, tu es vraiment un gros lourd. Tous ces bons moments passés, il y a quelques années, je me souviens en particulier de la présentation du Tour de France à Paris, où on avait fait la causette avec Raymond Poulidor. Et où on avait pris une superbe pâtisserie au train bleu, gare de Lyon, avant de reprendre le train. De bons souvenirs, il y a comme ça des petits souvenirs qui restent, vous savez. Tous ces bons moments, disais-je, qui auraient dû m'empêcher d'effacer ton numéro. Donc je demande à Rémi, ici présent, s'il l'a gardé, le numéro de François. Bien sûr, Rémi, la bienveillance personnifiée a bien évidemment conservé le fameux numéro. Je vous en prie.
Tu as quelque chose à me demander pour me pommader comme ça?
Et il veut t'épouser.
Numéro réintroduit dans l'appareil. J'envoie donc un message pour demander à François s'il est d'accord pour participer au Coq-à-l'âne le 1er octobre. Et je signe Philippe. Et là, qu'est-ce que je reçois au bout de 30 secondes comme message en retour? Devinez quoi? Philippe qui? Et là, j'écris magnifique. Elle est donc là, l'aventure moderne, sans âme et sans épaisseur. On croit se débarrasser du souvenir de quelqu'un en appuyant sur un bouton. Et puis le temps passe. On se dit qu'on a été peu inspiré par ce geste. Et puis on s'aperçoit de la réciprocité du fameux geste. Et là, ça devient presque attendrissant. Alors juste un conseil, chers auditeurs du Coq-à-l'âne, n'effacez personne de votre téléphone tant que vous ne l'avez pas effacé de votre mémoire.
Et sur ce, donc, bienvenue François.
Merci à vous.
Oui, alors l'histoire du téléphone, bah oui, alors donc t'avais supprimé aussi Philippe alors.
Mais je sais pas, non, je crois pas, moi je supprime pas les numéros.
Il a eu un bug.
Non, non, mais en fait je reçois énormément de messages et de mails, et donc j'ai lu très très vite ce mail, donc j'avais cru comprendre bien évidemment d'où ça venait, mais j'étais pas sûr de qui, donc j'ai dit mais c'est qui, donc voilà. Et après j'ai fait oups, j'avais pas vu.
Mais c'est une habitude chez toi, hein, puisque j'ai noté que le 14 septembre dernier, tu m'as envoyé un message en me disant, est-ce que tu aurais une numéro de téléphone de Joël Giraud. Et je me suis dit, non, en lisant, j'ai dit, tu as déjà supprimé Joël Giraud de ton répertoire.
Non, là, c'est vrai, j'ai changé de téléphone. Là,
mais Thierry, tu lui as pas renvoyé en disant Joël qui?
C'est ça, j'aurais dû. Très rapidement, c'était quoi les tensions entre vous? Non, tu te souviens?
Oui, si, il y a eu une période un petit peu de froid, je me rappelle, on avait été, ça avait commencé sur un petit désaccord d'une initiative prise, que moi j'avais considéré comme maladroite sur la provocation d'une réunion, et où je trouvais que Philippe avait été un peu vite pour provoquer une réunion avec l'accord de Patrick Arnault, alors que cette réunion, à mon avis, aurait dû être provoquée par la présidente de l'office ou le directeur de l'office.
Ah bah oui, non mais ça fait partie des souvenirs. Non, ça fait partie des souvenirs. Alors, on va rester dans les souvenirs, on va revenir un an en arrière, lorsque tu as appris, François, la fermeture des remontées mécaniques pour la fin d'année, puis pour la suite de la saison. Alors, réaction, comment ça s'est passé? La première réaction, c'était donc... pour les vacances de Noël.
Alors effectivement, pour les vacances de Noël, on était très surpris. Moi, j'étais persuadé qu'on allait nous laisser travailler. On nous l'a fait à l'envers en nous disant que Noël, jour de l'an, on nous demandait de fermer pour pouvoir sauver février. Il faut savoir que sur une station comme l'Alpe d'Huez, jusqu'à fin janvier, on a entretenu le domaine comme si on allait pouvoir ouvrir le lendemain. Donc en gros, c'est 300 000 euros par jour hein, de frais de fonctionnement. Et puis fin janvier, on a tous appris que février, on n'ouvrirait pas. Et alors, pour info et pour scoop, peut-être même, j'ai rencontré personnellement le secrétaire d'État au tourisme la semaine dernière au Congrès national des offices de tourisme. Et quelqu'un a eu la bonne idée de vouloir me le présenter. Donc il s'en rappelle encore. Et il me dit, alors la montagne, comment ça va? Je dis, bah écoutez, j'ai un truc à vous dire, parce que vous me posez la question, c'est que l'année dernière, vous nous avez sacrifié. Ce que vous avez fait pour la montagne l'hiver dernier, en pleine saison, vous le feriez jamais en pleine saison pour le littoral, parce que sinon ça aurait été une émeute en France. Donc sa réponse a été de dire, oui, mais quand même, vous avez eu des aides. J'ai expliqué que nous, c'est pas des aides qu'on veut, c'est juste travailler. Et puis qu'on voudrait bien savoir comment on va travailler cet hiver, pas sanitaire, pas passe sanitaire, à quel moment on prend les passes sanitaires. Donc c'est un gars bien qui accepte tout à fait le dialogue et le discours, qui est compétent je pense. Et il nous a dit que, qu'a priori la piste c'était que le pass sanitaire soit demandé au moment de l'achat du forfait. Donc on lui dit mais pourquoi pas, on est tout à fait apte à le faire, même si ça pose plein de problèmes dans la mesure où les gens souvent maintenant achètent leur forfait en ligne. Ils en commandent plusieurs à la fois, mais au moins qu'on n'ait pas le contrôle à faire à chaque départ de remontée mécanique. Et je lui disais mais plus sincèrement, même si on appliquera ce que vous nous dites, vous m'expliquez simplement pourquoi il faut un pass sanitaire pour quelqu'un qui monte sur un télésiège en plein air, qui a un bonnet, un masque, un bœuf, une combinaison, des moufles, et qu'on ne le demande pas dans le métro. Si vous m'expliquez, c'est bon.
Ouais. Oui, mais on revient toujours à l'histoire du télésiège qu'on a souvent évoqué ici. Il n'y a pas que le télésiège dans les stations, tu le sais.
Bien sûr.
Ah, il y a les restos, les
cafés. Ah oui, mais les restos continuent. Non, mais les restos, ça passe.
Exactement.
Non, mais à l'époque, on a fait une marche arrière. Personne ne savait où on allait. On était dans l'incertitude totale.
Tout à fait. Mais quand même, il faut juste se rappeler que la période d'hiver l'année dernière, il y avait le couvre-feu. Il y avait les restaurants fermés. Donc pour nous dans les stations, il y avait les remontées mécaniques fermées et qu'on demandait quand même aux gens de partir à la montagne. Et les gens sont partis à la montagne. Ouais. On a fait une saison en fréquentation qui n'était pas du tout ridicule, principalement les week-ends et les vacances scolaires. Mais pour les stations, c'était compliqué parce que forcément, il fallait satisfaire cette clientèle qui était là en vacances, qui a redécouvert les vacances en famille. Parce que du coup, là, ils mettaient pas les gamins au cours ou quoi que ce soit, donc ils passaient plus de temps ensemble. Mais donc, on a damé des chemins piétons, on a damé des chemins de raquettes, on a mis des itinéraires de ski de randonnée, le chien de traîneau, les scooters, on fait des saisons extraordinaires. Mais tout ça, c'était à fond perdu, parce qu'il n'y a pas de recette. Les gens, ils vont pas payer pour marcher sur des chemins damés. Et heureusement d'ailleurs. Mais pourtant, le damage, ben, ça a un coût. Voilà.
Mais ça peut-être générer une nouvelle approche pour cette saison.
Alors je crois que là-dessus, faut vite arrêter ces mauvais débats là et cette hypocrisie là. Toutes ces activités que je dirais pas de substitution, mais des activités complémentaires sont nécessaires pour les stations. Les stations, ça fait déjà 15 ou 20 ans qu'elles proposent des choses à côté du ski. Ce sont donc des activités complémentaires. Mais si on n'a pas le ski, on n'a pas le reste. Le ski n'est pas suffisant. Mais sans le ski, il n'y aura pas le reste. Parce que ce qui permet justement de générer les moyens de faire toutes ces activités-là qui ont une rentabilité très, 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 très réduite, sans le ski.
C'était pas tout à fait mon propos. C'est de dire peut-être que le mois de janvier ou le mois de mars, des personnes à la retraite ou des gens qui n'étaient pas skieurs sont peut-être venus à la montagne et vont peut-être revenir à la montagne. Et c'est des gens qui, de toute manière, ne prenaient pas de forfait, ne skiaient pas. C'est-à-dire qu'ils étaient des adeptes de la raquette, qui ont découvert le ski de fond, qui ont découvert d'autres activités montagne et qui vont venir en plus des gens qui faisaient du ski.
Alors vous savez, dans les stations comme Serre Chevalier ou comme l'Alpe d'Huez, on a un chiffre qu'on regarde très près, c'est le taux de transformation. C'est le nombre de nuitées par rapport au nombre de junior skieurs. Sur des stations comme Serre Chevalier et l'Alpe d'Huez, le taux il est de 8 sur 10. Ça veut dire que pour 10 personnes qui dorment, il y en a 8 qui skient. Donc c'est quand même des stations où on vient skier. Et comme je le dis, il faut quelque chose à côté du ski. Et la différence se fait souvent, j'ai posé mes skis, qu'est-ce que vous me proposez ? Donc on soigne beaucoup cette clientèle qui ne skie pas, mais depuis des années dans les stations, parce que c'est souvent celle-là qui va choisir la station. Celui qui skie sera toujours plaisir. La belle-mère qui est venue pour garder les enfants, si elle n'a pas ce qu'elle veut, son salon thé, son shopping, son bien-être, elle me dira ta station, je ne peux plus, je vais ailleurs.
On revient rapidement à janvier l'année dernière. L'argument du gouvernement de dire on ferme les remontées mécaniques parce qu'il y a trop de concentration au pied de ces remontées mécaniques, c'était donc une connerie ou pas ?
Oui, pour moi, c'est une connerie. C'était une erreur d'appréciation parce que je vous rappelle que les boîtes de nuit étaient fermées, que les restaurants étaient fermés. Donc, eux, ce qui leur faisait peur, c'était justement les regroupements après le ski. Mais là, il n'y avait pas de regroupement puisque les lieux habituels de station où on voit beaucoup de monde, beaucoup de foule et de la proximité, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, ils étaient fermés en janvier l'année dernière. Il n'y avait que de la vente à emporter.
Il y avait quand même le brassage international aussi, parce qu'il y avait quand même des pays où les restrictions sanitaires étaient moindres que chez nous.
Ah ben, il y avait des stations ouvertes en Suisse, notamment.
Des studios chargés à 150%, des beaucoup de monde concentré, grand pic de fréquentation de la station. Donc je pense, c'est pour ça l'histoire de l'image du télésiège m'a toujours un peu dérangé parce que je trouve que c'est un peu simple de parler que de ça.
Non mais la clientèle internationale déjà, fait deux ans qu'on la voit plus quasiment.
C'est pas les Italiens qui seraient venus.
Voilà, non mais enfin des stations, enfin une station comme l'Alpe d'Huez, un client sur deux est étranger en temps normal et la moitié des étrangers sont britanniques. Ouais. Donc l'année dernière, de toute façon, on n'aurait pas eu déjà.
Non mais je pensais aux pays de l'Est, dit de l'Est, Slovaque, etc. Ça, c'est qui est la population du mois de janvier, la
fâchée. Oui, pour les stations comme Puy-Saint-Vincent, Risoul, Serre-Merlette. Ouais. Mais à Serre-Chevalier ou à l'Alpe d'Huez, c'est pas cette clientèle-là, la clientèle internationale. Mais enfin bon, on va pas faire une hiérarchisation de la clientèle internationale, c'est pas, je serais mal placé pour aller sur ce chemin-là. Non, je crois qu'il y avait tout pour ne pas faire de rassemblement. Puis il y a de l'espace, il y a de la place à la montagne.